Bonjour Daniel, je m'appelle Léa et j'ai 9 ans. Je suis allée au Brésil avec mon papa et mon papa brésilien pendant les fêtes de fin d'année. J'ai découvert ma famille paternelle que je ne connaissais pas. À Recife, j'ai vu des bidonvilles. Ça m'a rendu triste. Voilà ce que je voulais dire après avoir écouté ton émission. Au revoir.
De moyens plus violents de coercition des employeurs et des gouvernements contre les salariés que le chômage. Aucune répression physique, aucune troupe qui matraque, qui lance des grenades lacrymogènes, ce que vous voulez, rien n'est aussi puissant comme moyen contre la volonté tout simplement d'affirmer une dignité, d'affirmer la possibilité d'être considéré comme un être humain. C'est ça la réalité des choses.
La voix d'Henri Krasuki, qui nous est revenue d'une façon émouvante par un message sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, donc d'un auditeur qui avait enregistré la voix d'Henri Krasuki dans le film de Gilles Balbastre, Le chômage a une histoire. Merci à cet auditeur, évidemment, hommage à Henri Krasuki. Aujourd'hui, une balade avec un auditeur, voilà. Je vous en dis pas plus, ça s'appelle un début dans la vie, et c'est un reportage de Claire Auter. Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Voulez-vous raconter l'histoire de trois frères, Mohamed, Mourad et Idriss, qui ont eu l'idée de créer un syndicat sud dans l'entreprise de métallurgie Baer, dans la banlieue de Sarreguemines. En quelques jours, au moment de l'apparition publique du syndicat, ils se sont vus reprocher par leur employeur une multitude de fautes professionnelles, qui ont bien sûr aucun rapport avec leur appartenance syndicale. Le résultat, c'est qu'ils sont licenciés tous les trois, donc c'est pas la peine de vous faire un dessin sur les conséquences sociales et familiales de l'affaire. La direction, en plus, conteste la représentativité du syndicat qui leur aura permis d'avoir un minimum de protection. Et donc, la suite va se jouer au tribunal de Sarreguemines pour la représentativité et au tribunal des prud'hommes pour leur réintégration éventuelle. Donc, voilà, je voulais vous donner quelques nouvelles de l'aube du 21e siècle qui ressemble sur bien des points au début du 19e. Voilà, merci.
Luc Ferry, c'est un mec dont l'histoire nous révélera un jour le mystère de son étiquette d'homme de gauche. Luc Ferry, donc, le gars en question, a dit: les diatribes anti-mondialisation constituent chez nous, de l'extrême gauche à l'extrême droite, une sorte de volapük national que chacun, à un moment ou à un autre, se doit d'entonner. Donc ce gars-là, il se préparait à une petite soirée tranquille ce week-end, guitare avec des copains, avec Yves Duteil, quand soudain, Chirac l'appelle et lui dit: Luc, tu pars à Porto Alegre. Ce poisse, Luc! Tu vas en bouffer du volapuc là, hein, pendant 3 jours. Et puis en plus, si tu croises des écolos avec les conneries que t'as écrites sur en faisant des analogies entre deep ecology et nazisme, tu vas avoir droit au goudron et aux plumes là. Ah, et puis tous ces anciens 68, ah, tu vas en croiser, ça va être un enfer pour toi. Vraiment, tu vas morfler. Donc Daniel, s'il te plaît, colle-lui un reporter au basque et au moins qu'on en profite, quoi. Voilà.
Vous avez un message d'un petit con. Les moches, les cons, les pauvres, tout ça c'est pareil. Il y aura toujours des gens pour leur écraser la gueule, et toujours des gens pour les consoler. Mais les moches, les cons, les pauvres, ils ont les psychanalysateurs pour leur apprendre le caniveau. Parce que finalement, l'essentiel dans la vie pour être heureux, c'est de connaître sa place et de savoir s'y tenir.
Je suis salarié du privé non syndiqué. Je tenais à rappeler que le samedi 1er février seront organisées dans toute la France multiples manifestations pour défendre l'avenir de nos retraites. Toutes générations, secteur public, secteur privé sont concernés. Il faut se mobiliser face au pouvoir politique, face au pouvoir économique qui nous lamine insidieusement un peu plus chaque jour. Ce serait formidable pour la défense de nos acquis sociaux, durement obtenus, qu'il y ait dans les rues autant de monde que lorsque l'équipe de France de football est devenue championne du monde en 98. Le pouvoir citoyen existe. Faire l'unité, amplifier la solidarité, c'est notre force unique. Petit rappel tout de même, en 93, les syndicats avaient oublié de soutenir le secteur privé au moment des réformes des retraites par M. Balladur. Voilà, bon courage à tous. Merci, au revoir.
Je suis rentré le 2 août, oui, 2002.
Et vous en êtes sorti quand ?
Le 13 novembre 2002.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Claire Auter. Là-bas, si j'y suis, un début dans la vie.
Flight number 2, arriving from...
L'histoire d'un petit bonhomme qui s'appelle Bertrand, qui a 24 ans mais qui n'a pas l'impression de les avoir passés. C'est l'histoire d'un garçon qui a eu du mal à grandir. Mon numéro de matricule, je connais par cœur. Ce 27-211, c'est le A019. C'est un numéro qu'on nous a demandé constamment à l'intérieur. Et c'est un numéro qui reste en nous, l'air de rien, même si avec le temps, je sais que ça va se passer. Mais ça reste quand même en nous. Savoir qu'on est le 27-211e véhicule à passer dans cette prison, c'est... 27-211, c'est le A019. Qu'est-ce que c'est faire de la prison, rien que pour faire de la prison? Et c'est tuer sa jeunesse, c'est simplement ça, pour lui, c'est tuer sa jeunesse en ce moment. À 29 ans, on a beaucoup plus de choses à faire à l'extérieur qu'en prison.
Arnaud, c'est votre première histoire d'amour?
La première et la dernière. Parce que d'une manière comme d'une autre, si ça venait à mal se passer, ce sera fini pour moi. Ça, je le sais. Ce sera fini. Si un PD ne reconnaît pas le plus commun dénominateur à toutes les oppressions, c'est qu'il est PD pour elle. La vie, c'est un combat. Il faut toujours la prendre comme elle est, comme un combat. Là, c'est le sens, c'est le la 019.
L'homme est-il fait pour la vie? Bien adapté à l'existence? Est-ce qu'on est bien étudié pour la traverser au long cours? On se demande des fois, quand on se voit un dimanche soir arrêté sous la pluie sur le parking d'un centre commercial genre Évry, à essayer de faire l'amour dans un espace aussi réduit. On se demande des fois qu'est-ce qu'on fout là, avec la barre placée si haut devant soi, qu'on préfère se coucher sur les rails et attendre le prince charmant de 22h47. Pas fastoche de se plier, se conformer quand votre dressage est un peu loupé. Quand on vous a pas mis l'étiquette où il fallait ne pas plier, fragile attention. C'est pas tout le monde qui est comme il faut. Bien bronzé, bien parlé, bien sapé, bien télé, bien PPD. Y a-t-il loupé ? Des pas au format qui correspondent pas tout à fait à cette planète-là. Des ailes alors qu'il faut nager. Des écailles alors qu'il faut voler. On leur trouve des explications, des psychos machin peute, des baves dans la gueule, des nuits à la cave et des calmants, des calmants, des calmants. Les moches, les cons, les pauvres, comme dit cet auditeur. Alors parfois, c'est cavale, tangente, la malle, la belle, l'échappée, dans le décor, ou dans la tête, ou dans les chiottes de la gare un soir avec un monsieur caressant. Aujourd'hui, l'histoire de Bertrand, 24 ans, 24 ans, la vie devant soi. Bertrand, aujourd'hui, un départ dans la vie.
Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute ma vie. Jamais nous n'avons échangé de tels sermons me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être jamais pris par la mort. Mais qui étions si inconstants. Pourtant, tu te sens sans quand tu n'as rien ne soit dit. Petit à petit, les sentiments se sont brisés en tout d'un corps qui se plaisait. La semaine. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour?
Ici, on est dans le bassin minier. Ouais. Le vrai, le pur bassin minier, quoi. Ici, plus qu'ailleurs, en plus dans le bassin minier, il y a encore cette notion de solidarité, puis on le retrouve aussi dans l'architecture, avec les maisons les unes sur les autres.
Collées, tout imbriquées les unes
voilà,
dans les
exactement,
autres.
Voilà, exactement, ouais. C'est le caractère aussi des gens ici, c'est pareil. Quand je suis descendu du train avec tous mes sacs pour emménager ici dans cet appartement, quelqu'un immédiatement s'est proposé pour m'aider à porter mes sacs jusqu'ici, quoi, alors que la gare est à quand même 10 minutes, 15 minutes. Bah, ça m'a fait un choc, quoi. C'est la première fois qu'on me proposait comme ça de l'aide. Ça m'a surpris, et c'est les gens, c'est typique d'ici, et c'est ce qu'il me faut, quoi. Cette sympathie, simplement. Ça va pour l'instant. On va refermer. Il n'y a pas trop de jardin ici, on est en plein centre-ville. On voit simplement la tour là-bas, le beffroi. Je sais pas si vous voyez là-bas, le beffroi du centre-ville de Béthune, quoi, en fait. L'hôtel de ville, les maisons en briques. L'histoire d'un petit bonhomme qui s'appelle Bertrand, qui a 24 ans, mais qui n'a pas l'impression de les avoir passés. C'est l'histoire d'un garçon qui a eu du mal à grandir. Bertrand, c'est simplement quelqu'un qui a vécu une vie un peu difficile. J'étais livré à moi-même et il fallait que je m'en sorte comme ça. Et moi, je souffrais plus qu'autre chose. Au départ, on va dire que j'ai l'image d'une mère, j'ai l'image d'une sœur, qui se sont efforcées à pas m'aimer, ou à m'aimer mal, très mal même. Le père, il n'y a pas de père. Je m'en souviens plus de mon père. Il a jamais existé. Il était agent technique d'une société agricole.
Ma mère était soignante. Et du côté de Cambrai. Ma mère, c'est quelqu'un qui a vécu des choses pas faciles. Un mariage qui s'est très mal passé. Et une femme que j'ai jamais aimée. Les premiers souvenirs que je me rappelle de moi, vers l'âge de 9 ans, ah bon, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'enfance, il n'y a plus... Ça fait suite à une histoire qu'il y a eu entre moi et mon cousin, à l'âge de mes 9 ans, ouais, qui s'est passé. Ce que j'ai subi, en fait. Un viol de la part de mon cousin, quoi. Qui était plus grand que moi, bien sûr. Ce tabou, le fait de rien dire, de pas comprendre pourquoi on nous fait ça, pourquoi un enfant de 9 ans est victime de ça et qu'il n'y a pas moyen d'en parler, quoi. Parce que je savais que ça serait pas cru. J'ai vécu avec ça, avec ce mal qui est en moi. C'est des choses qui se sont répétées plusieurs fois. Et puis basta, quoi. On n'en parle plus. Bon, même si mon enfant, je sais que je pissais dans mon froc tous les jours, quoi. Je chiais carrément dans mon froc, c'était exactement ça. Et il faut se débrouiller dans la vie comme ça. Et c'est à partir de là où je me suis dit en moi-même, et si c'est comme ça, autant me former moi-même, quoi. Par arrogance, par défi. Le premier bouquin qui m'est tombé, c'était à la médiathèque, j'en souviens toujours, à la médiathèque municipale. À 12 ans, oui, je me rappelle bien, j'avais pris La raison pure de Kant. Je me rappelle surtout faire semblant de lire, quoi, par rapport aux autres personnes. Et pour moi-même, même à mon intérieur, je me disais, mais si je comprends, mais si tu vas comprendre, mais si tu vas comprendre. Je comprenais rien, quoi. C'était vraiment, c'était n'importe quoi, quoi. Mais, je descendis un peu de tout ça et j'ai vraiment appris à lire. Parce que avant, je faisais semblant, hein. Je faisais semblant complètement de lire. C'est-à-dire, après cet échec de Kant, je suis passé au petit Nicolas de Sempé et de Goscinny. Et c'est Sempé et Goscinny qui m'ont donné simplement l'envie de lire, quoi. La lecture, elle m'a permis d'aller vers un ailleurs, quoi, simplement.
Voilà, c'est le début dans la vie de Bertrand, la vie un peu difficile, comme il dit, livré à soi-même, comme il dit, tabou, comme il dit, pas moyen d'en parler, comme il dit, enfance difficile, et la critique de la raison pure de Kant, et puis les petits personnages de Sempé. Et puis le tabou, et puis le viol à 9 ans, voilà ce qu'il a dans son sac, ce garçon. Et voilà comment la vie commence.
À un moment donné, je me suis dit, je vais partir de chez moi. Mais c'était plutôt la chute qu'autre chose, quoi. Ouais, je suis parti, mais mal parti, quoi. Très mal parti. Je suis parti sans rien en poche, sans rien du tout. Ouais. Premier TGV, direction Paris, gare du Nord. Et puis, il faut gagner sa vie, quoi. Il faut gagner sa vie. J'ai un peu vendu ce que j'avais à vendre.
Votre jeunesse et votre beauté.
Mon cul, ouais, surtout, ouais. C'est surtout ça. Surtout ça à vendre. C'est la chose, ouais, la plus violente qui puisse passer, quoi. Chose la plus violente. Ouais. Parfois on se demande dans quoi on est tombé avec des clients parfois qui sont dégueulasses, mais quelque chose de bien, quoi. Quelque chose de bien. Mais de toute façon on est obligé d'accepter, quoi. Si on veut le pourlicher à la fin, il fallait accepter que je fasse ce que j'ai fait, simplement, quoi. Tous les soirs, ouais. Tous les soirs. Puis ça permettait aussi de me payer l'hôtel. Puis, du côté du 17e. Boulevard Clichy.
C'était qui, les clients?
C'était des gens qu'on peut croiser dans la rue, n'importe quoi, des, je sais pas, un postier par exemple. Ils m'ont emmené chez lui, puis je lui servais à passer le temps, simplement à parler avec lui, bon voilà. Sinon, des costards cravates, des gens qui rentraient du boulot, des gens de n'importe quelle condition, de toute façon, ils pouvaient se faire de la jeunesse, mais ils se sont fait de la jeunesse, simplement. C'est au plus offrant, 300 balles. J'ai jamais été au bout de leur fantasme à eux, quoi. J'ai jamais voulu. Je faisais simplement ce que je voulais faire et pas ce qu'ils voulaient que je fasse, quoi. 300 balles la fellation, c'est tout, quoi. J'allais pas plus loin. Si vous voulez aller plus loin, c'était plus cher, de toute façon. Et c'est vraiment rien que parce qu'il y a l'argent au bout, parce qu'il y a ce putain de fric qu'il faut faire, quoi. Et c'est avec ça qu'on vit, c'est avec ça qu'on fait sa vie, quoi. Et on se dit, bah, il y a que ça, s'il y a que ça, bah, on a autant le prendre, et puis tant pis pour les conséquences. Et puis le client, bah, s'il est heureux pour ça, bah, qu'il me donne son fric, et puis le reste, on s'en fout. Donc, chaque nuit, c'était vraiment repartir à zéro. C'était mettre les compteurs à zéro et se dire qu'avant, il s'était rien passé. Parce que sinon, si on commençait à se mettre tout ça en tête, à se dire qu'on s'est fait violer, quoi. Une fois, j'ai voulu aller à la rue d'Aligre pour les sans logis, quoi. Dire, bon, allez, on va sortir de cette galère et puis basta. On va simplement faire comme tout le monde, quoi. Dire qu'on est sans abri, on est sans argent, sans rien du tout, et puis on va repartir de zéro. J'ai simplement pris le papier d'hébergement, quoi, qu'on m'a remis, et je suis parti, je suis plus jamais revenu, quoi. Parce que me proposer de dormir, ou des châteaux rentiers, un dortoir d'asile, vraiment, non. J'aurais pas pu. Et j'ai préféré continuer ce que j'ai fait, continuer la rue et continuer à gagner mon fric, quoi. Voilà. 6 mois, je sais pas. Peut-être plus, je sais pas. Et quand je suis parti de là, je me suis retrouvé à Brest, dans l'appartement d'un marin de la marine de France. Ouais. Des yeux qui voulaient m'aider, qui voulaient m'offrir le gîte. J'ai accepté. On m'a fait faire des photos, on m'a fait faire des vidéos qui passaient sur Internet, quoi, en fait. Ouais, des photos porno. Et même, il m'a dit, si tu veux ton billet de retour pour Paris, il faudrait que tu ailles plus loin dans tes photos de nuit. Donc, j'ai été plus loin et il m'a payé le billet de retour, quoi. Retour à la case départ.
Les hommes entre eux parlent de travail. C'est comme un jeu entre comme ils en parlent. Et ça va vite, on voit les rails. Et on ne freine pas, c'est un jeu. Vois comme un souffle rapide. Au-dessus de un soleil vibre et leur cœur est emballé. Là, affleure la peau qui les bride. L'envie est une bouteille vide qu'il faut remplir d'eau glacée. Et comme ils sont assoiffés, et comme ils sont
vache enragée, c'est une expression qui se perd, ça, vache enragée. Pourtant, il en a bouffé déjà à 24 ans, le Bertrand de la vache enragée. C'est comme un genre de guerre, au fond, hein. C'est comme un genre de guerre. Guerre économique, si on veut, guerre guerre contre soi-même, guerre de la vie, guerre de quelque chose. Il est allé au front. Pour lui, partir au front, c'était prendre un train, un TGV, et puis d'arriver sur le front, à la gare du Nord, et puis de se défendre avec les armes qu'il avait, et sans jeu de mots, les larmes aussi qui traînaient dans une vie comme celle-là. Il nous a laissé un message un jour sur le répondeur de là-bas si j'y suis. On s'est dit, ce gars-là, c'est quelqu'un qui cherche à mettre des mots sur les choses. Pas sur n'importe quelle chose, pas avec n'importe quel mot, mais sur lui-même pour essayer de se mettre au clair. Mais c'est pas de ces hommes qui ramènent les choses eux-mêmes, qui prennent l'univers, qui prennent la vie en direction de leur nombril. Non, c'est le contraire. Écoutez-le bien, c'est le contraire. Il part de sa vie à lui, des replis les plus intimes, les plus secrets, au-delà même du secret et de l'intime, et il s'ouvre. C'est un garçon qui s'ouvre, c'est un homme qui s'ouvre, c'est un homme de toujours, depuis qu'il y en a, qui s'ouvre, qui d'après, à partir de lui, d'après moi, comme on dit, d'après moi, et qui va vers le monde, qui essaye d'aller vers le monde. Et sa façon à lui, la copine qu'il a trouvée pour aller vers le monde, vers le vaste monde, après avoir pris ce TGV un jour, qui l'a conduit à Paris, ça a été de faire le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Claire Otter est allée le voir, et voilà ce qu'il lui a dit.
Mais après, je suis reparti sur Cambrai. J'en avais marre de tout ça. J'en avais marre de fuir.
Vous êtes rentré chez vous?
Ouais. Je voulais reconstruire ma vie. J'étais pas bien dans ma tête parce qu'il n'y avait personne pour me dire simplement Bertrand, t'es quelqu'un de bien, quoi.
À 21 ans, vous aviez jamais aimé qui que ce soit?
Non. Il n'y a eu que des coups, comme ça, simplement. Des gens de passage.
Et l'amour, ça se découvre où, alors?
L'amour, ça nous tombe sur la gueule sans qu'on s'en aperçoit. C'est simplement ça. On croit que ça n'existe plus, que ça arrive, quoi. C'est quand deux êtres fracassés se rencontrent, sans qu'on juge l'autre, sans que l'autre nous juge. C'est le rapprochement de deux êtres qui au départ avaient la même histoire, qui au départ avaient... Je ne saurais pas en parler, mais...
En tout cas, ça s'est passé en prison?
C'est passé en prison.
Comment ça s'est fait?
L'histoire pour laquelle je suis rentré pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Voilà. Moi, je reconnais, quoi. Je reconnais ce pourquoi on m'a mis en prison. J'ai cru aimer quelqu'un, et c'était complètement faux, quoi. Je me suis fait plus de mal qu'autre chose. Me porter plainte, c'est tout à fait normal, quoi. J'ai fait du mal et je m'en suis même pas rendu compte, quoi. Ouais. Je veux que tous ceux qui l'entourent maintenant lui disent clairement, tu sais, Bertrand, c'est un salaud. Je veux qu'ils lui disent ça. C'est une chose qu'on m'a jamais dite, quoi. Par rapport à ceux qui agressent les enfants, il faut qu'on dise à ces enfants, justement, que... Et il faut qu'ils payent par rapport à ça. Et je veux qu'on lui dise ça. La culpabilité, je préfère qu'elle soit sur moi, qu'elle soit sur lui. Je reconnais mes torts, même s'il y a des circonstances atténuantes. Mais simplement pour qu'il vive bien par la suite, c'est simplement ça. Qu'il ait son bonheur à lui, qu'il vive bien. Et chaque jour, quand je me lève, de toute façon, je me dis que je suis responsable, je suis coupable, je suis responsable, je suis coupable. Et je pense toujours à ce cause-là.
Cette chanson?
C'est simplement un homme qui peut simplement exister
simplement dire aux gens, non, je suis pas une douleur, je suis autre chose. Simplement ça. Je me dois d'un poème en ce jour. Cette journée, novembre à la con.
De novembre à la con.
Je me dois d'une lutte telle minuscule.
Je me dois d'un crachat.
Je me dois d'un éclat.
Je me dois d'un éclat. Je me dois d'un souffle
sur ce monde entier qui se refuse à moi. Je me dois ta conquête. D'écrire une chanson d'amour ne sera pas qu'une douleur. Ça m'aurait plu de prendre à ton goût petit sourire de vainqueur. Que mon discours aurait changé d'odeur. Les gens se seraient dit, tiens, pour une fois, qui chiale pas sa mère, celui-là. Je me dois d'un poème. Novembre à la con. À la con. Ouais. Voilà, c'est simple, c'est fou. Ouais, c'est juste des chansons comme ça qui passent et qui repassent, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce genre de chansons que j'aime bien. Si elle veut bien s'arrêter. Voilà. Ouais, non, mais j'aime bien ces chansons-là.
Même si on y tient vraiment, même dans les flammes du firmament, seul dans le soleil couchant, on ne s'y fait jamais pourtant.
Dombrowski, Ashmerabé.
Bertrand parle. Sans doute on parle en prison. C'est-à-dire tout seul. Tout seul ou alors à l'adresse d'un compagnon de cellule allongé sur le plumard du dessus et qui s'en fout. Et c'est bien comme ça. Ça tombe bien qu'il s'en foute. Ça permet de se raconter, de se raconter. Jusqu'à ce que petit à petit, comme dans la marqueterie, les mots correspondent à peu près aux choses. C'est long, hein? C'est vachement long dans une vie d'arriver à ça. Il faut du temps, beaucoup de temps. Et c'est ce temps de trop que Bertrand a eu quand il s'est retrouvé en prison. À la suite d'une chose évidemment très très grave, agression sexuelle sur un mineur de 15 ans, il vient d'en parler. C'est ça dont il voulait parler, tout comme il voulait parler du viol qu'il a subi dans son enfance à lui. Alors évidemment rapprochement, alors évidemment répétition, alors évidemment. C'est pas si simple que ça, évidemment. C'est pas évident, évidemment.
Oui, j'ai payé, ouais. Même si, ouais, j'ai payé.
Combien ?
Pour l'instant, je peux pas savoir encore, parce que là, je suis placé sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire que on m'a libéré à la cour d'appel de Douai, parce que je présentais les qualités nécessaires pour me présenter justement dans la justice. Donc, à partir de là, ils ont considéré que c'était légitime de me libérer, que je pouvais pas non plus causer trop de mal à la société, quoi. Même pas du tout, quoi. Et que j'avais compris ce qui m'est arrivé, c'est surtout ça. Donc pour l'instant, je sais pas, il faut encore attendre un an, parce que la justice, elle met un an, quoi, pour vraiment s'appliquer totalement.
C'est-à-dire pour décider ?
Pour décider de la peine que j'aurai exactement, quoi. Si j'ai une peine de prison.
Pour l'instant, vous avez passé 3 mois en maison d'arrêt ?
En maison d'arrêt, oui, tout à fait. On attend que le dossier soit fermé, le dossier de l'instruction soit fermé, et peut-être 8 mois après, il y aura le jugement par lui-même, et on verra ce qu'il en est, quoi. Mais le principal, comme a dit mon avocate, c'est que je construise ma vie maintenant. Moi, j'en veux pas à la justice. J'en veux plus aux policiers, par rapport à leur humiliation pendant la garde à vue. C'est l'insulte qu'ils ont balancée, parce qu'il leur faut des aveux complets, entiers, et voilà, quoi. J'ai la fâcheuse habitude, quand j'ai quelqu'un de buté en face de moi, que moi, je suis encore plus buté que lui, quoi. À la fin, j'ai craqué psychologiquement. Et j'ai chialé comme tout, j'en pouvais plus, j'avais une tête complètement explosée, pendant un jour et demi, j'étais crade, j'ai dormi sur le béton, traité de pourri, me traité de demeuré. C'est ça la garde à vue surtout. La garde à vue, c'est une horreur. C'est d'une violence telle, c'est-à-dire que on se retrouve interrogé par 2 gaillards en face de vous, un derrière vous, qui sont en train de vous poser des questions qui vous dépassent complètement, et tout d'un coup, il y a un policier qui arrive derrière vous et qui vous met les menottes. Ouais, c'est d'une violence telle. Avec tous les caïds qu'ils veulent, mais pas avec moi, quoi. J'aurais acquiescé à toutes leurs questions, j'aurais été libéré le soir même. C'est mon entêtement qui a fait que je me suis retrouvé en prison. C'est ce que m'a dit le procureur, en plus. Voilà, je suis passé devant un expert psychologue qui a dit que, de toute manière, c'était pas grand-chose qui s'était passé. Ça m'a choqué, parce que non, c'est pas vrai. L'agression sexuelle, c'est pas quelque chose de... C'est pas grand-chose, justement. C'est quelque chose de violent, c'est quelque chose de très dur pour l'enfant qui le vit. Un enfant qui subit ça, c'est pas grand-chose, c'est quelque chose d'horrible. Je suis rentré le 2 août, ouais, 2002.
Et vous en êtes sorti quand ?
Le 13 novembre 2002. Ouais. C'est une sensation déjà. C'est une sensation de froid. Ouais. Quand je suis rentré, j'ai la chair de poule dans l'eau. Je rentrais par le grand portail. La voiture, elle s'est avancée. Ils m'ont enlevé les menottes. Ils m'ont emmené chez le greffe pour prendre mes empreintes. Après, ils m'ont mis dans une cellule. J'en suis ressorti après. Après, ils m'ont pris une photo de moi. Ils m'ont donné une carte magnétique à faire montrer à tous les gardiens quand je passais une porte, ainsi de suite. Ils m'ont demandé de retirer toutes mes fringues à poil. Ils m'ont donné de nouvelles affaires. Enfin, c'était trop petit pour moi, mais je m'en rappelle. C'est des fripes. Je suis resté avec ces fripes pendant 2 semaines, quoi.
C'est quoi les bruits, les odeurs ?
On peut pas parler de bruit, on peut parler d'écho, simplement. C'est-à-dire que quand il y a un bruit qui se fait ressentir dans une partie de la prison, elle se répercute dans toutes les salles.
le bruit des portes déjà. Toujours ce jeu de clés qui n'arrête pas. Les odeurs qu'on peut ressentir, c'est... Non, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Pour réchauffer les détenus en hiver, c'est simplement un tuyau d'eau chaude qui passe à travers chaque cellule. Et il fait un froid glacial. On a deux couvertures. Par exemple, par ce temps-là, ça doit être une horreur, quoi. Ça doit être une horreur. Et ouais, ce qu'on ressent surtout en prison, c'est aussi des cris le soir.
Les cris
des prisonniers qui... Bon, qui n'en peuvent plus, quoi. Des cris de désespoir, surtout. Des cris de désespoir. J'en peux plus, c'est simplement un appel au secours. Qui sont plus humains, quoi. Au bout d'un moment, ils sont plus humains. Ouais, c'est devenu des bêtes, quoi. C'est devenu des gens qui s'accrochent à leur lit, qui crient, qui attendent simplement que le surveillant passe, quoi. Qui passe pour lui donner des cachetons. Parce que, en prison, c'est ça. C'est des drogués. On les drogue. Le psychiatre, s'il pouvait faire payer tous les cachetons qu'il donne, il deviendrait millionnaire, quoi. Vous vous sentez pas bien, on vous donne un traitement pour 6 mois. Et le traitement, c'est avachi sur son lit tous les jours, sans volonté, sans rien du tout. Il y a peut-être 70% de la prison qui est shootée à ces médicaments, qui en peuvent plus, quoi, qui crisent, qui pleurent, qui... Voilà, c'est ces bruits qu'on entend le soir. Ouais, c'est les cris surtout qu'on entend, les cris le soir.
Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais. Toujours en mon amour, jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous laisser nous réveiller tous les matins, aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit. Ne désirez rien de plus que ce si quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, les sentiments se sont liés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Les sentiments si fous et si violents que tous les mots d'amour connus et inconnus. Les sentiments si fous et si violents, les sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru.
Il a dit prisonnier, mais on dit détenu. On dit détenu. Prisonnier, ça gêne. Prisonnier, ça va pas, c'est pas le mot. Faut dire détenu, c'est moins grave que prisonnier. Prisonnier, ça gêne. Prisonnier, ça gratte la conscience, ça va pas. Ces témoignages, les témoignages comme celui de Bertrand, de l'intérieur de la prison, on a... Tout le temps, cette camisole chimique à l'intérieur de laquelle on enferme et s'enferme les prisonniers ou détenus, comme vous voudrez. Tout ça, on le sait. On ira bientôt avec Guy Van Til en prison et on verra de près comment on y vit, surtout les jeunes, les très jeunes dans les prisons de France. Pour l'instant, on est avec Bertrand qui a fait un séjour qu'il raconte à Claire Otter à la suite d'une chose encore une fois gravissime puisqu'il s'agit d'une agression sexuelle sur un mineur de 15 ans qu'il reconnaît et dont il regarde la faute, sa faute en face. droit dans les yeux. Suite aussi, si vous arrivez maintenant, c'est important quand on dit ça de faire le rapprochement avec ce qu'il nous a dit au début de cette heure, c'est-à-dire que lui-même a été victime d'un viol dans son enfance. C'est pas des choses qu'il veut cacher, c'est des choses qu'il veut dire, mais d'une certaine façon, pas n'importe quand, pas à n'importe qui. Et c'est aujourd'hui, et c'est à vous.
Quand vous arrivez en prison, je ne sais pas comment c'est marqué sur leur ordinateur, sur leur fichier, à surveiller, deux points, homosexuel, quoi, simplement. On est fiché, de toute façon.
C'est stigmatisé tout de suite ?
Oui, mais être détenu, c'est quelque chose de féroce. Ils savent très bien que le type qui va faire demeure sur le dos, il va se faire étriper, mais quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'il y a un quartier spécial pour affaire de mœurs. Et même à l'intérieur des quartiers, c'est aussi bien séparé, quoi. C'est-à-dire que un tel détenu va pas aller avec un autre détenu. Ouais. Le monde en prison, c'est vraiment un monde de paranoïa impossible. Et c'est celui qui fera plus de mal à l'autre qui aura son instant de gloire, quoi. Et c'est ça, c'est la méchanceté à tout prix, la méchanceté à tout prix. Pour essayer de se dégager de toutes ces angoisses, on trouve l'autre, on dit que c'est lui le responsable. Ouais, il faut se protéger. Les hommes qui sont en prison depuis 2-3 ans, les hormones qui les guettent, quoi. Mais bon.
Et l'homosexualité, elle est omniprésente en prison, non? C'est un tabou, on n'en parle pas, mais elle est très très présente.
On en rigole beaucoup, les détenus entre eux, ils en rigolent. Ils parlent de leurs co-détenus qui sont en cellule avec eux, comme leurs copines, quoi, entre guillemets, quoi. Oui, c'est vrai qu'elle est présente. Là, il se fait faire des petites gâteries dans les douches, celui-là, c'est dans sa cellule, voilà, quoi. Il y a des rumeurs qui enflent sur les personnes. Il n'y a que des cellules de 2 personnes. Ouais. Donc j'arrive en cellule des arrivants. Avec la grosse. Je l'appelle la grosse. Même je corresponds encore avec lui. C'est quelqu'un de sympa. Daniel, il doit bien avoir 54 ans. C'est un gars du voyage. Et c'est quelqu'un de très important en fait. Dans chaque étage, il y a ce qu'on appelle un gamleur. Lui, c'était un gamleur. C'est-à-dire celui qui distribue la bouffe et qui distribue aussi ce qui est important, les cantines. C'est-à-dire des extras au niveau nourriture. Il a la main longue, on peut dire, donc c'est bien de s'entendre avec lui. Le chef de détention, justement, m'a appelé. Il m'a dit, bon, j'ai de la chance pour vous, j'ai encore une place en cuisine, donc je vous la prends. On démarre au plus bas, c'est-à-dire à la plonge. C'est une cadence de fou, quoi. On s'en fichait de se lever à 6h du matin et de revenir du travail vers 10h et 17h, non-stop, quand on travaille en non-stop. 6 jours sur 7, on s'en fichait, c'était... Ça permettait de ne pas penser à notre affaire, de ne pas penser à nos histoires, de ne pas penser à... Tant mieux. Le salaire, c'est le plus élevé. Et moi, je gagnais 122 euros par mois. Il y a aussi les emballages, l'enveloppe. Un boulot monstrueux, même, je vais dire, pour les mains. Il y a des marques aux mains, ainsi de suite. Enfin, c'est un travail terrible, quoi. Et pour, je sais pas combien ils travaillent, pour peut-être 300 francs par mois, quoi. Ouais. On sert en fait de cet argent pour avoir des bons de cantine supplémentaires, des produits supplémentaires pour améliorer le quotidien, parce que la bouffe, c'est pas ce qui suffit à nourrir un homme qui reste 24 heures sur 24 en cellule, quoi. Voilà, simplement ça. Pour des extras. Donc pour 300 francs, il n'y a pas d'extra, quoi. C'est vraiment rien du tout. Faut qu'il fasse les pliures, ainsi de suite, et au bout d'un moment, et ben, ça échauffe le bout des doigts, et les gens, ils ont, voilà, quoi. Ils continuent parce qu'il y a le gagne-pain derrière, mais sinon, ils continueraient pas, quoi.
Ils fabriquent des enveloppes, et puis eux-mêmes, ils attendent des lettres et des courriers de l'extérieur.
Ouais, c'est vrai. Ce qu'ils attendent, c'est des enveloppes blanches, un peu plus petites. Ça, c'est vraiment pour tuer le temps. Ouais, c'est vraiment le terme, tuer le temps. Qu'est-ce qu'ils font, les gardiens? Qu'est-ce que la pénitentiaire, elle fait pour eux? Bah, elle fait rien. Elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Parce que la seule solution qu'on a trouvée au délit en France, c'est simplement la prison. Priver les gens de liberté. Parce que c'est une solution, moi je voudrais bien savoir. Et quand on rentre là-dedans, quand on vit là-dedans, on sait que pour certains, leur vie est finie. S'ils ressortent, c'est les deux pieds devant, quoi. Tellement, ils en peuvent plus.
Combien de gens on casse comme ça? Bah bien sûr, il y a des gens qui sont contents d'être en prison. Bon, ils sont un petit jour de 2-3 mois. Ils sont contents pour eux, ils sont contents, puis après ils reviennent pour d'autres délits. Des petits larcins, des petits trucs comme ça. Ils sont nourris logés pour certains, donc ça leur convient parfaitement. Mais pour d'autres, c'est une vie foutue, une vie gâchée. Une vie gâchée, carrément.
Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours, oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, pourtant tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers, combien de mots d'amour. Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser. Nous réveiller tous les matins aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit. De ne désirer rien de plus que ce si quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien.
Merci à Bertrand. Bertrand le retrouvera demain. C'est pas tout, c'est pas fini sa vie. C'est un début dans la vie, mais ça c'est la première partie seulement. C'est un reportage de Claire Auter. Technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Olivier Leroux. Assistante, Joël Levert. Le répondeur, c'est Christophe Imbert qui s'en occupe. Et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Assistante réalisation et choix des musiques, c'est Coy Nguyen. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Modeste et géniale.